Laure Barat, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour.
Alors, avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, donc je précise pour les auditeurs que vous allez nous présenter la pédagogie Jean Quiry. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Oui, je me présente. Donc, je suis, comme beaucoup d'entre vous, mère et grand-mère. Je suis aussi enseignante, en primaire et en collège-lycée, c'est-à-dire que j'ai une expérience qui a un petit peu changé suivant les années, et depuis longtemps formatrice de professeurs et d'instituteurs. Mais aujourd'hui, je suis présente avec vous en tant que formatrice à la pédagogie Jean Quiry, que je connais et pratique depuis une trentaine d'années.
Alors, nous vous écoutons donc sur la présentation de cette pédagogie et vous allez nous expliquer ce qu'elle a de particulier.
Oui, bien sûr. Bonjour à chacun de vous. Je suis très heureuse d'être invitée par Radio Maria aujourd'hui pour vous parler de la pédagogie Jean Quiry. Ce nom vous évoque probablement quelque chose si vous, votre enfant, avez appris à lire avec Jean Quiry. Mais certains d'entre vous vont découvrir aujourd'hui cette pédagogie simple, joyeuse, pour accompagner l'enfant dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Faut pas oublier l'écriture. La pédagogie Jean Quiry s'applique donc aux enfants de 5 à 7 ans à peu près, c'est-à-dire de la grande section au CE1, le temps d'asseoir la lecture et l'écriture. Et vous, qui accompagnez un enfant dans la lecture, vous savez que ça lui demande des efforts. Je pense à Augustin, là, ça y est, il déchiffre les panneaux dans la rue, il regarde, il arrive à lire tout ce qui passe, ça y est, il est entré dans la lecture. C'est une vraie joie pour lui et pour sa maman. Et donc, je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter une pédagogie active qui permet d'apprendre avec le sourire. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré la pédagogie Jean Quiry? Je suis maman de, comme je vous l'ai dit au début, et j'avais une de mes filles qui est dyslexique. Elle est adulte maintenant, mais elle est toujours assez dyslexique. Mais elle a appris à lire. Et comme maman d'enfant dyslexique, j'ai cherché un petit peu partout ce qui existait, et je suis tombée sur une petite annonce. J'ai appelé l'association, et voilà, j'ai été faire ma première formation Jean Quiry. Et là, j'ai rencontré la fondatrice qui faisait les formations, Marie-Brigitte Lemaire, qui écoutera probablement cette émission. Et donc, Marie-Brigitte, jeune institutrice, elle avait une vingtaine d'années, se trouve en CP à apprendre à lire avec des enfants. Et à la fin de l'année, certes, ils savaient lire, mais elle avait beaucoup souffert parce qu'elle avait répété toute l'année: asseyez-vous, écoutez, ne bougez pas. Et ça, c'était vraiment trop difficile pour elle et pour les enfants, parce que c'est une dame très active. Et du coup, elle avait été voir ses parents qui lui ont dit: écoute, c'est bien, renseigne-toi sur toutes les pédagogies qui existent, va partout et trouve ce qui est bien pour les enfants. Et du coup, elle a été rencontrée d'abord Marcel Jousse, dont certains ont peut-être entendu parler avec la rythmocatéchèse. Marcel Jousse, qui était un jésuite qui s'est beaucoup intéressé au rôle du corps dans l'apprentissage, lui a dit: vous prenez la pédagogie que vous voulez, mais il faut qu'il y ait du rythme et du geste. Bon, elle est partie avec ça. Et puis, elle a vu les travaux de Madame Lubienska de Lanval, qui est une collaboratrice de Maria Montessori. Et là, Madame Lubienska de Lanval insiste sur le rôle du silence et sur le beau en éducation. Et puis, Marie-Brigitte a rencontré les travaux d'Augustin Grosselin. Ça s'appelle la phonomimie. On va en parler tout à l'heure. Et donc, Augustin Grosselin, sa méthode de phonomimie a été utilisée dans toutes les écoles de la ville de Paris, les écoles Michelin et beaucoup d'écoles en France jusqu'à la dernière guerre. Puis c'est un petit peu tombé dans l'oubli avec les nouvelles pédagogies, etc. Mais Marie-Brigitte a retrouvé ça. Et alors, le plus drôle, c'est que Marie-Brigitte a été en Hollande pour voir la classe qui appliquait la méthode de Théa Bunier, la méthode le bon départ. Et donc voilà une dame qui ne parle strictement que le français, qui était dans une classe hollandaise, en fond de classe, tous les jours à prendre des notes. Et là, elle a découvert les chants gestués. Et ça a été pour elle vraiment un apport décisif. Du coup, Marie-Brigitte Lemaire a fondé cette pédagogie Jean Quiry en s'appuyant sur tous ces travaux-là, une pédagogie unique et originale qui utilise le geste, le rythme et le chant. Et c'est vraiment ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et savez-vous comment elle a trouvé le nom? Un visiteur venait dans la classe qu'elle animait avec sa nouvelle pédagogie et a dit que ses enfants sont gays, des vrais petits Jean Quiry. Et le nom est resté. Du coup, tout le monde peut voir que la pédagogie Jean Quiry est une pédagogie active avec le geste, le rythme, le chant. C'est tellement gai et tellement entraînant que tous les enfants embrayent et à la fin de l'année, ils savent lire. Et ça, c'est vraiment une joie pour tous, pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants aussi, il ne faut pas oublier. Alors maintenant, je vais vous présenter les différentes composantes de Jean Qui Rit, puisque c'est une pédagogie et donc ce n'est pas simplement une méthode de lecture comme celle qu'on peut acheter en librairie et puis on la suit. C'est beaucoup plus riche que ça. La première composante est peut-être celle qui va vous étonner. Ce sont les chants et gestes. Les chants et gestes sont faits pour préparer l'enfant à la maîtrise de son corps. Si on n'est pas maître de son corps, c'est difficile d'apprendre à lire et de bien suivre la ligne. Apprendre à faire attention avec ses oreilles pour bien différencier les sons. Apprendre à faire attention avec ses yeux. Quand je regarde un H ou un K, ça se ressemble beaucoup honnêtement si je ne fais pas très attention avec mes yeux. Et puis apprendre à se repérer dans l'espace. Droite, gauche, haut, bas. Vous pensez bien sûr à la lettre B, la lettre D, qui se ressemblent beaucoup. Elles sont juste tournées dans un sens ou dans l'autre. La lettre P, la lettre Q, de même la lettre U, la lettre N, etc. Alors ces chants et gestes, qu'est-ce que c'est? C'est une petite séquence d'une dizaine, quinzaine de minutes où nous allons aider l'enfant à développer tout ça. D'abord par des petits exercices d'orientation que nous faisons à chaque fois. Vous pouvez le faire en même temps que moi si vous avez les mains libres, pas si vous êtes au volant. Hein. Nous mettons nos mains à droite, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, en haut, en bas. Et ainsi de suite, en chantant ça tous les jours, eh bien l'enfant sait se repérer à droite, à gauche. Maintenant, c'est quelque chose de concret pour lui. Première séquence, l'orientation, c'est indispensable. Et puis, des petits exercices pour poser sa voix. Nous chantons des petits exercices de rythme, parce que la vie est rythmée. Puis comme ça, les plus indolents sont réveillés et les plus excités sont calmés, sont disciplinés. Et enfin, nous terminons par le chant de la semaine. Par exemple, vous connaissez Sion du bois. C'est très simple, nous allons faire ensemble ce geste. La main gauche, c'est le bras gauche, c'est la bûche. Ne bouge pas la bûche. Pendant ce temps, la main droite va mimer la scie qui avance et recule pendant qu'on chante. Sion, sion. Donc vous voyez, sion j'avance, sion je recule. Sion, sion, sion du bois. Et ainsi de suite jusqu'au bout de la chanson. Quand on a fait avec la main droite, maintenant on le fait avec la main gauche pour éduquer tout le corps. Et une sessionniste nous disait, eh bien avec cette session, j'ai eu l'impression de réveiller toute la partie gauche de mon corps qui ne vivait plus. Et donc d'être une personne plus complète. Et nous travaillons toujours main droite, main gauche. Certains chants sont une préparation beaucoup plus directe à l'écriture. Par exemple, enfilons l'aiguille, enfilons l'aiguille, l'aiguille, enfilons l'aiguille de bois. L'enseignant ou la maman dessine en très grand une aiguille comme un I vertical et le fil fait une petite bouclette, un petit dessin qui suit. Et tandis que nous chantons, nous mimons dans l'air ce geste qui descend bien droit pour le I et puis la petite boucle qui continue. Et donc, en chantant, nous préparons l'écriture. Alors, j'insiste beaucoup sur le chant parce que les travaux actuels, par exemple les travaux d'Isabelle Peretz, qui est une chercheuse canadienne, montrent que l'approche musicale est un vrai plus pour les compétences scolaires de l'enfant. Ils ont fait ce test, c'est les chercheurs, de trois groupes d'enfants de niveau équivalent. Un groupe a reçu du soutien scolaire, un autre groupe a fait du théâtre et un troisième groupe a fait de la musique et notamment du chant. Eh bien, vous avez compris, c'est le groupe qui a fait du chant qui a fait le plus de progrès. L'intérêt du chant réside très probablement, c'est l'hypothèse de cette chercheuse, et je la suis pour qu'elle continue à nous apporter ses lumières, dans le rythme. Le chant aide, et toute la pratique musicale par le rythme, aide l'enfant à développer ses compétences scolaires. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Donc nous avons vu les chants et gestes, mais maintenant il est temps d'aborder la lecture. Alors, quelle est cette méthode? Vous avez entendu parler des débats, de toutes les méthodes de lecture. Eh bien, nous, notre méthode est basée sur les sons. En français, il y a 33 sons. Le son A, le son V, le son OU. Ce n'est pas une correspondance entre une lettre et un son. OU, c'est un son du français et il faut savoir le lire. Alors, chaque son est équipé, grâce à M. Grosselin, d'une image qui représente un enfant. un petit garçon, une petite fille, pour que l'enfant s'identifie. Alors, les voyelles sont des filles, les consonnes sont des garçons. A, c'est une fille, ou c'est une fille, V, c'est un garçon. Et chaque histoire, chaque son est doté donc d'une image avec un enfant que nous observons, qui a un prénom, qui a une histoire, une petite histoire très concrète, proche de la vie des enfants, et qui se termine par un geste. Par exemple, je vais vous faire découvrir le son A. Le son A, nous voyons une jolie petite mignonne fille avec des petites couettes. Cette petite fille s'appelle Anna. Et Anna, c'est le jour de son anniversaire. Elle entre et elle voit sur la table un gâteau au chocolat. Et elle dit « Ah ». Elle ouvre sa bouche, elle ouvre sa main et elle dit « Ah ». Nous faisons avec Anna ce geste « Ah ». Nous faisons et nous disons « Ah ». Et ça y est, l'enfant a créé un lien affectif. Il a fait une évocation mentale, donc dans sa tête, il voit très bien la scène de la petite fille et du gâteau au chocolat. C'est très concret pour lui. Et comme nous allons insister sur cette lettre qui a un grand rond et puis un bâton bien droit et une petite canne, nous la décrivons, nous la regardons, nous faisons attention avec nos yeux et nos oreilles. Donc il associe ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce geste de la main ouverte. Ce geste est naturel, quand vous ouvrez votre bouche, vous ouvrez votre main. Et donc voilà, nous avons utilisé différentes mémoires visuelles, auditives et gestuelles. Pour vous parler des mémoires, vous avez peut-être comme moi un code à votre porte. Et quand je rentre de vacances, le code je l'ai oublié. Je me mets devant le code et ma main connaît le chemin. Ma mémoire gestuelle est la première à se réveiller. Et puis ma mémoire auditive, je me redis le code et ma mémoire visuelle, je vois le dessin du code. Mais la mémoire gestuelle est extrêmement importante et pas toujours utilisée en classe. Donc pour nous, c'est extrêmement important de l'utiliser au maximum. Je vous parlais de la très jolie petite William que j'avais en CP il y a 2 ans, qui, dès qu'elle était un petit peu perdue dans sa lecture, elle levait les yeux vers les affiches de toutes ces petites images au-dessus du tableau. Et ça y est, elle avait retrouvé, elle faisait son geste et hop, sa lecture reparlait. Certains d'entre vous faites aussi de la musique et vous savez qu'il y a un morceau, on le sait, sur le bout des doigts. Ça veut dire que ça y est, notre mémoire là. Alors, on apprend les sons, et puis aussitôt les sons, nous allons les marier. Par exemple, après avoir appris les voyelles, nous allons apprendre n. N, c'est une consonne, c'est un petit garçon. Son geste est très simple. Le petit Nicolas est resté dehors, il a attrapé froid, sa narine est bouchée, et il met son doigt sur sa narine et il dit n. Vous voyez, nous pouvons maintenant associer le n. Et le A que nous connaissons, et ça dit « na ». Et en même temps que nous le disons, nous faisons les gestes « na ». Après, nous apprendrons « ch », nous apprendrons « en ». Toutes ces syllabes vont se marier. Et nous mettons toujours du son, du sens. C'est-à-dire que si nous apprenons « na », comme dans « navire », parce qu'il est très important que la lecture ne soit pas une gymnastique. C'est toujours donner du sens à ce qui est écrit. Et puis nous apprenons ensuite dans le manuel, un manuel syllabique, n'importe lequel pourra convenir, et maintenant il en existe beaucoup que vous trouverez facilement en librairie. Donc là où vous êtes, vous pouvez trouver un support. Dès que vous avez les petites images de la phonomimie Jean Quiry, vous pouvez démarrer. Alors nous savons lire, et en même temps que nous apprenons à lire, il faut apprendre à écrire. Les deux vont s'appuyer l'un sur l'autre. L'écriture s'apprend au même rythme que la lecture. D'ailleurs, la recherche actuelle montre l'importance de l'écriture manuscrite pour les apprentissages. Et les États américains qui y avaient renoncé, au Canada aussi, dans certains États, pour passer directement à taper sur un ordinateur, certains sont en train d'y revenir parce qu'ils s'aperçoivent que pour les élèves, c'est vraiment important. Bien, alors l'écriture, comme je vous ai dit, le geste, le rythme et le chant. Eh bien, l'écriture se pratique debout, puis assise. Main droite, main gauche, deux mains. Des grands gestes, des petits gestes et des tout petits gestes. L'écriture est rythmée. Je vous explique. Apprenons à écrire le « i ». C'est très simple. Le « i », je monte en biais jusqu'en haut du chemin des lettres. Je descends bien droit, je tourne en formant une petite canne. Point, j'ai écrit le « i ». Comment ça se passe ? Tous les élèves se mettent debout et nous apprenons à nous mettre debout en silence, sans faire de bruit. L'enseignante ou la maman a tracé le i en très grand sur le tableau. Et tout le monde fait le geste en très grand, trois fois de la main droite, puis trois fois de la main gauche, et trois fois avec les deux mains en chantant. Quand nous montons, nous disons « et », quand nous descendons, nous comptons « un », et puis en remontant « deux ». Et un, deux, et un, deux, et un, deux. Vous voyez, c'est chanté, c'est rythmé, c'est gestué, c'est très actif. Et puis dès que nous avons fait ça debout, trois fois main droite, trois fois main gauche, trois fois deux mains, il faut un peu de répétition pour apprendre, nous nous asseyons et nous allons le faire sur la table, avec l'index qui dessine sur la table. Et là, c'est sensoriel et c'est déjà plus petit. Et quand l'enfant l'a fait trois fois main droite, trois fois main gauche et trois fois deux mains sur la table, il peut le faire aussi en pâte à modeler, il peut le faire avec le doigt mouillé sur une ardoise, dans le sable, avec les lettres rugueuses, ça c'est à votre liberté, la liberté de l'enseignant. Eh bien là, nous sommes prêts pour le faire dans le cahier. Le cahier, vous savez qu'un interline, c'est 2 mm, c'est tout petit. C'est pour ça qu'il faut avoir appris en très grand pour bien avoir regardé jusqu'où on monte, jusqu'où on descend, à quel moment on tourne. Parce qu'en grand, on voit mieux ce qu'on fait. Voilà l'écriture avec Jean Quiry. Et Jean Quiry, il y a aussi la leçon de silence. Je vous ai dit qu'avec Jean Quiry, nous apprenons à être maître de notre corps et nous apprenons à nous lever et nous asseoir en silence. Cette leçon de silence qui vient de Madame Lubienska de Lanval, c'est une éducation à la maîtrise de soi et au beau. Et c'est un bon moment. Pour moi, la maîtresse, c'est le meilleur moment de la journée. Le moment où nous sommes tous ensemble, c'est un état qui est très paisible et vraiment génial. Donc, ça se passe très simplement. L'enfant est assis confortablement sur sa chaise. L'adulte le guide par une prise de conscience. Je sens mes pieds, mes jambes, on passe nos mains sur nos cuisses. Je sens mon dos appuyé, je bouge ma tête, je la tourne à droite, à gauche. Et je m'arrête bien droit. On fait ça, ça dure un petit peu, je ne vais pas vous le faire en entier. Et puis ensuite, nous restons au calme. Et notre corps apprend à faire silence. Et puis, il y a d'autres étapes, une fois que cette étape est maîtrisée. Par exemple, on pourra demander à l'enfant de se lever silencieusement et de faire un petit trajet et de revenir s'asseoir absolument silencieusement. Ça demande de faire très attention à la façon dont on pose ses pieds, à ne pas heurter quelque chose, un meuble avec sa main. Voilà, c'est une éducation à la maîtrise de soi et au beau. Et puis ça peut aller jusqu'à de l'écoute musicale. C'est une étape importante dans Jean Quiry. Il y a aussi la dictée. Pour vous, la dictée, pour moi, quand j'étais élève, c'était vraiment le pinsum, la chose que je détestais. Eh bien, figurez-vous que la dictée Jean Quiry, c'est ce que les élèves adorent. C'est formidable, la dictée Jean Quiry. D'abord, ça se passe très simplement. L'enseignant ou la maman dit très peu de choses. Écoute. Na. Fais les gestes. L'enfant pose sa main sur la narine pour faire le N, ouvre la main pour faire le A. Écrit. Il a fait deux gestes. Il écrit deux lettres. Relis avec les gestes. L'enfant se relit. À ce moment-là, s'il a fait une erreur parce qu'il a confondu des sons, en relisant, il corrige, tout simplement. Donc c'est un moment agréable, concentré, calme. L'enfant qui entre en CP en sachant lire va utiliser les gestes pour apprendre l'orthographe des mots. Parce que dans toutes les classes de CP, il y a des enfants qui savent déjà lire en entrant. Mais celui-là, il a besoin d'apprendre comment s'orthographient les mots. Je pense à Véronique, qui est une de nos formatrices, qui dit « Ah, je sais très bien si l'enfant a appris avec les gestes ou pas. » Il y a beaucoup moins d'erreurs dans la dictée. D'ailleurs, elle est quasiment toujours impeccable s'il a appris en faisant les gestes. Parce que ça entraîne une mémoire supplémentaire et du coup, l'enfant est sûr de lui. Tandis que l'enfant qui est déjà lecteur dit « Oui, bah, ce mot-là, je le connais. » Mais savoir lire et savoir écrire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour des enfants qui sont en début de CP ou pour une nouvelle lettre qu'on vient d'apprendre à écrire. Par exemple, le jour où on apprend à écrire le K, reconnaissez avec moi qu'elle est vraiment difficile à écrire cette lettre. Du coup, l'enfant a depuis le début de l'année un classeur range-lettres. À chaque fois que nous apprenons une lettre, nous lui donnons quelques exemplaires de cette lettre, un petit carton où il y a écrit la lettre. Et donc, le premier jour de la dictée, nous faisons avec les lettres déjà imprimées, pour ne pas rajouter la difficulté de concentration sur l'écriture. Donc, si on dit la syllabe « na », eh bien, il sort le « n », il sort le « a », il les colle à côté. Voilà, c'est écrit là. Évidemment, on ne va pas dicter une seule syllabe. Hein. Là, je vous fais un petit peu court. On va dicter plusieurs syllabes. On peut aussi dicter des lettres simples quand on est en tout début d'année. Alors, il y a beaucoup d'autres exercices dont je ne vais pas vous parler, la copie, les exercices sur le coussin de cymbales, etc. Mais vous avez compris que la pédagogie Jean Quiry est bien plus qu'une méthode de lecture, c'est une pédagogie avec l'ensemble des activités pédagogiques. Alors, vous parents, vous enseignants, faites ce cadeau aux enfants de la lecture courante. Vous savez comme c'est important pour la poursuite de leur scolarité. C'est décisif. Moi qui étais prof de maths pendant pas mal d'années, je peux vous dire que les enfants butent en maths parce qu'ils ne comprennent pas le problème, parce qu'ils n'arrivent pas à le lire et évoquer en même temps dans leur tête ce que ça représente. Ils ont trop de choses à faire. Donc, avec Jean Quiry, c'est plus ou moins facile suivant les enfants. Mais avec Jean Quiry, au moins, c'est beau, c'est gai et c'est engageant. Donc, pour les préparer, je vous incite à faire des chants et gestes et déjà leur apprendre à maîtriser leur corps, leur apprendre à maîtriser leur corps dans l'action. Je fais des actions, mais je sais ce que je fais. Ça rejoint un peu Vito, si vous en avez entendu parler. Et aussi, apprendre à se calmer, à être maître de soi. C'est notre cerveau qui dirige à notre corps. On peut dire à l'enfant, ton cerveau, c'est le roi, et tout ton corps doit obéir au roi ou au président de la République. Ça, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Apprenez-leur aussi à faire attention avec leurs oreilles. Des petits jeux d'assonance comme, que mettons dans mon corbillon ? Dans mon corbillon, je peux mettre un melon, puisque j'entends « on ». Je peux mettre un menton, même si ce n'est pas très pratique. Tous les mots où on entend « on », je peux les mettre dans mon corbillon. Beaucoup d'autres jeux comme ça. Faites-leur aussi faire attention avec les yeux. Vous connaissez peut-être le jeu du lynx ou les livres « Où est Charlie ?» qui sont vraiment très bien pour ça. Vous allez donc les préparer à la lecture. Déjà en amont, dès 4-5 ans, vous pouvez faire ça. Et donc, vous, parents, vous avez aussi un rôle. Bien entendu, ça se fait à l'école, mais c'est des petits jeux très amusants. Vous serez proche de votre enfant et vous aurez plaisir à le faire. Et puis, quand votre enfant sera en CP, vous pourrez faire du soutien avec la phonomimie, c'est-à-dire ces gestes qui accompagnent les sons. En particulier, pour éviter les confusions de sons proches. Quand deux sons sont proches, avec la phonomimie, nous avons toujours fait des gestes qui sont très différents. Si un son est le « e » et le « e », par exemple. Le « e », on va faire un geste qui est vers le haut de la tête et le « e » vers le bas du corps. Comme ça, les gestes sont très différents et l'enfant ne les confond pas du tout. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, pour l'orthographe, parce qu'un enfant qui aura appris en faisant les gestes, eh bien, il aura beaucoup moins de difficultés d'orthographe. Et ça, c'est vraiment important pour tous. Comme dit Marie-Brigitte Lemaire, notre fondatrice, oui, tu connais ce que dit cette lettre, mais je vais t'apprendre son histoire et son geste. Ce qui vous permet d'apprendre à l'enfant sans déranger ce qui se fait en classe. Alors peut-être qu'en classe, il a déjà une méthode gestuelle et à ce moment-là, vous gardez les mêmes gestes que la maîtresse. Ça ne pose absolument aucun problème. L'autre point où vous pouvez aider votre enfant, c'est le cadeau de l'écriture. Donc dès qu'il est petit, vous lui apprenez à bien tenir le crayon. Alors évidemment, c'est progressif, mais il faut qu'il arrive en CP en prenant le crayon avec trois doigts, le pouce, l'index et le majeur, le crayon reposant sur le majeur. Ça, c'est vraiment une aide, parce qu'imaginez la maîtresse qui en a 30, dès qu'elle pose les petites mains correctement sur le crayon, elle va voir l'élève suivant et les petites mains ont bougé. Donc vous qui avez 1, 2, 3 enfants, vous pouvez les aider, c'est plus facile. Et ce cadeau de l'écriture, vous pouvez aussi le faire avec la pédagogie Jean Quiry si l'écriture n'est pas enseignée explicitement en classe. Moi, quand j'ai fait la formation à l'UFM, il y a très longtemps, on ne nous a pas appris à écrire aux enfants. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Et donc, je sais qu'il y a des classes où on dit à l'enfant, tu vois, c'est écrit comme ça, bah, tu recopies sur ton cahier, sans lui enseigner le détail du geste. Et bah, vous êtes des parents, vous pouvez le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Et ça prend 10 minutes tous les jours avec un petit cahier et vous le ferez très bien. Alors, si vous êtes enseignante ou si vous connaissez des enseignantes, comment se passe une journée pour une maîtresse Jean Quiry ? Je vais vous donner mon expérience, ça se passe exactement de la même façon. Il y a les rituels du matin. Et bien, dans les rituels du matin, j'ajoute mes 15 minutes de chants et gestes, orientation, exercices vocaux, rythme, chant de la semaine. Et puis la lecture, comme toutes les maîtresses, je fais ma leçon de lecture. Alors, on reprend un petit texte avec les sons de la veille, pas exactement les mêmes mots, mais les mêmes sons. Pour voir, on fait une petite consolidation. Puis on apprend le son du jour, Comme dans toutes les classes, un son, on l'apprend sur 2 jours. Et puis, on continue avec les exercices du manuel. L'après-midi, on va refaire une petite lecture pour s'entraîner. Puis, après la récré, moi, j'aime bien faire la leçon de silence parce que la récré, ça les a excités. Donc, 5 minutes de leçon de silence. Une enseignante en milieu difficile à Toulon, il y a quelques années, me disait « Après la leçon de silence, j'ai 40 minutes de concentration. » Je peux vous dire que 40 minutes en milieu difficile, c'est formidable. Puis ensuite, je fais la leçon d'écriture parce que ça demande beaucoup de concentration. Tous les jours, avec grands gestes, petits gestes, puis dans le cahier. Ça prend 1 quart d'heure, 20 minutes. Et puis le vendredi, on apprend à copier. C'est important d'apprendre la copie. On copie les leçons, on copie beaucoup de choses en classe. Donc, il faut apprendre la copie efficace. Et puis, on fait les maths et on termine la matinée avec la dictée. C'est 10 minutes, c'est actif, c'est agréable, avec le cahier ou avec le range-lettres, 1 jour sur 2. Quels sont les effets sur la classe ? Une maîtresse rassurée, elle sait qu'elle a une méthode qui marche à tous les coups et qui est structurée. Un enseignant disait à Marie-Brigitte Lemaire quand elle le formait en Afrique, parce que la pédagogie est dans le monde entier, « Vous savez, moi j'ai dit au directeur, si à la fin de l'année, un enfant ne sait pas lire dans la classe, tu prendras sur ma paye. » Ça veut dire que c'est un enseignant qui a confiance. Ça donne une classe qui est en harmonie. Quand tous les enfants font les gestes ensemble, c'est très harmonieux. Une classe apaisée. Et quand on enseigne dans les autres niveaux, on pense à impliquer tout le corps. Vous apprenez le cercle. J'ai fait ça en CE2 la semaine dernière. Demandez à tous les élèves de se placer exactement à 2 mètres du ballon. Ils retiendront que le cercle, c'est l'ensemble des points placés à la même distance du centre. Parce qu'ils l'ont fait avec leur corps, c'est très concret pour eux. Mettez du rythme du chant. Quand vous apprenez les conjugaisons, vous les scantez. Je chante, eux, tu chantes, eux, ils chantent, eux, etc. Donc là, vous mettez les principes de la pédagogie Jean Quéry dans tous vos enseignements. Alors, je vais bientôt conclure. Comment on fait ? On va se former en session. Nous faisons des sessions à Paris. Cette année, il y a une session à Toulon aussi. Pourquoi en session ? Parce que c'est de l'artisanat. On apprend en faisant et en faisant ensemble. Ça dure 5 à 6 jours et le matériel est inclus. Sur notre site, jeanquéry.fr, vous verrez les dates, les informations pratiques. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne. C'est pour les enseignants, c'est pour les parents, c'est pour les grands-parents, pour les rééducateurs. Nous avons une graphothérapeute, vous lirez son témoignage sur le site. Elle est venue, pas cet été, mais l'été d'avant. Pour finir, à retenir la pédagogie Jean Quéry, c'est une pédagogie cohérente, réaliste, proche des enfants. C'est dynamique, ça donne de la joie. Et puis, demandez-nous plein de formations en région. Nous serons ravis de venir vous voir. Et puis, après la pause musicale, je répondrai à toutes vos questions. À très bientôt.
Merci beaucoup, Laure Barat, pour la présentation de la pédagogie Jean Quéry. Peut-être une question, vous avez parlé de votre fille qui est dyslexique et qui a bénéficié de la pédagogie Jean Quéry. Est-ce que cette pédagogie est applicable aux enfants hyperactifs ?
Alors oui, cette pédagogie est applicable à tous les enfants. En fait, il y a des enfants hyperactifs. Pour eux, par exemple, la leçon de silence va être un moment qui va être plus exigeant que pour d'autres. On ne va pas exiger la même perfection de calme, mais je peux vous assurer que ça leur apporte énormément. Et avoir une pédagogie où on bouge, où on se lève, où on fait des gestes tous ensemble, ça contente une partie de leurs besoins d'action. Et ça, vraiment pour eux, une classe où on fait Jean Quéry, je peux vous assurer que ça leur apporte un confort, leur besoin de mouvement est pris en compte. Ça, c'est vraiment important. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a beaucoup d'autres troubles des apprentissages qui vont bénéficier de la pédagogie Jean Quéry. Les élèves dyspraxiques, les élèves dysgraphiques, c'est vrai que pour eux, apprendre à écrire, c'est un pinceau. Je pense à un petit garçon que j'avais en classe il y a 2 ans. Lui, pour faire la dictée, pendant toute l'année, il a continué à poser les cartons des lettres puis recopier la dictée, parce que l'écriture était vraiment une étape difficile pour lui. Donc je savais qu'il avait besoin de 10 minutes de plus, parce que une fois qu'il avait fait sa dictée avec les cartons, il prenait son cahier et il la recopiait. Mais le fait de dissocier l'exercice de « j'entends quelque chose et je décode les sons qui sont dedans », puis je prends les lettres et je copie sur mon cahier, ça lui a permis d'avoir des bonnes notes en dictée. Parce que en fait, il connaissait l'orthographe des noms, des mots. Mais le problème, c'est que pour lui, faire les deux en même temps, c'était trop difficile. Donc voilà, si je peux répondre, je crois que la pédagogie Jean Quéry s'adapte à beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage.
Et justement, donc vous parlez de différents types de mémoire. Je pense qu'on a tous un type de mémoire qui est prédominant sur les autres. Et on a l'impression que finalement, l'éducation classique, je vais employer le mot de classique, enfin, qu'on trouve le plus généralement, n'est axée que sur un type de mémoire et laisse de côté les autres.
Oui, bien sûr, l'éducation, l'enseignement tel qu'il est pratiqué actuellement en France, je trouve, est extrêmement théorique. On est passé d'un enseignement très auditif où le prof parlait ex cathedra et débitait son cours à un enseignement plus visuel où maintenant nous avons dans les salles de classe de quoi projeter des images, etc. Mais la partie gestuelle, la partie corporelle est bien souvent négligée par les enseignants. Moi, j'ai été enseignant, je peux vous assurer que même en terminale, comme prof de maths, je faisais dessiner des courbes dans l'air avec les mains à mes élèves, parce que je pense qu'ils ont besoin de faire les choses avec leurs mains. Je pense à une jeune fille, qui est maintenant mère de famille, qui faisait de la danse. Et elle rentrait du cours de danse en disant oh, « Mais les autres, elles mettent un temps fou à apprendre les chorégraphies, la prof l'a déjà montré deux fois. » Je dis « Oui, toi, tu apprends très vite avec ton corps, d'autres apprennent en disant ou en copiant. » Eh bien, chacun a son type de mémoire. Et alors, avec Jean Quiry, on ne s'occupe pas du type de mémoire préférée des enfants. On donne tout à tous les enfants. Tous les enfants, on va leur faire voir, on va leur faire dire, parce que nous racontons les choses. Quand je vous dis qu'on raconte la lettre, on dit oui, le A, je commence un petit peu en dessous de la ligne, je monte en tournant, je descends en tournant jusqu'à la ligne d'en bas, je remonte jusqu'au trait d'en haut, je descends bien droit. Voilà, l'enfant va dire ce qu'il fait et de verbaliser ce qu'on fait, ça aide à le conscientiser. Ça, c'est aussi très important. Donc, on va utiliser tous les types de mémoire. Ça, c'est très important.
En vous écoutant, je me rends compte que, en fait, lorsque je faisais mes études, j'avais besoin d'écrire ce que j'entendais pour mieux retenir.
Eh bien, voilà, vous aviez trouvé votre méthode à vous. Quand un enfant a 5, 6, 7 ans, ce n'est pas à lui de trouver sa méthode. Nous, on lui propose tout. Et puis, on va lui faire essayer tout. Et petit à petit, il va s'organiser dans ses apprentissages. C'est sûr qu'un élève du lycée sait un petit peu comment il fonctionne. Encore que, il y en a un certain nombre qui ont été stéréotypés. Leur maman leur a dit « tu apprends la leçon, puis tu fais l'exercice, c'est comme ça qu'il faut apprendre ». Bien non, certains ont besoin de faire beaucoup d'exercices avant d'apprendre la leçon, parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre la leçon tant qu'ils ne se sont pas beaucoup entraînés. Voilà, nous avons chacun notre façon d'apprendre, notre façon d'intégrer. Ce qui est très important, c'est d'avoir des évocations dans notre tête. Ça, c'est capital. Vous, peut-être que en passant de l'oral à l'écrit, c'est votre moyen pour évoquer. Alors, il y a aussi les droitiers et les gauchers. Comment on éduque les droitiers et les gauchers avec Jean Quiry? Eh bien, exactement de la même façon, parce que vous avez entendu, on fait toutes les choses de la main droite, de la main gauche et des deux mains. Donc, pas de problème entre les droitiers et les gauchers. Tout le monde s'éduque pareil.
Eh bien, merci beaucoup, Laure Barat, pour ce temps que vous nous avez accordé ce matin. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez redonner les coordonnées pour avoir plus de renseignements sur la méthode Jean Quiry?
Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre site qui s'appelle jeanquiry.fr. Si vous tapez dans votre barre de recherche « Pédagogie Jean Quiry », vous tomberez facilement sur nous. Si vous tapez juste Jean Quiry, on va vous aiguiller sur la comtesse de Ségur. Donc tapez « Pédagogie Jean Quiry » dans votre barre de recherche et vous tomberez sur notre site où vous avez des témoignages, vous avez tout le matériel qui est présenté, vous avez les formations qui sont présentées. Ça vous permettra d'en savoir plus. Et puis des petites bases théoriques, bien sûr, si vous avez envie. Et n'hésitez pas à nous contacter, notre secrétaire est là le mardi toute la journée et le jeudi matin, si vous voulez la voir directement, puis sinon elle répond très vite à vos appels. À très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.
Au revoir madame.
Chers auditeurs de Radio Maria, vous avez écouté l'émission « Pour vous, les parents » aujourd'hui avec Laure Barat qui nous a parlé de la pédagogie Jean Quiry. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.